Radio Kapi.
Voilà, messieurs, bonjour. À la une, ce nouvel éboulement de terre hier au site minier de Gassassa, près de Roubaïa Centre, à Massissi, dans le Nord Kivu. Le bilan pourrait être lourd. C'est sur ce même site que plus de 400 personnes ont perdu la vie il y a 6 semaines. Pour l'heure, les autorités locales verrouillent toute sortie d'informations. Dans ce journal aussi, la joie des habitants de la cité de Lubao dans la province de la Lomami. Une cinquantaine de ménages bénéficient déjà du courant électrique pour la première fois. Ils saluent ce projet d'Anser qui vient améliorer leurs conditions de vie. Le but pour Anser est d'arriver à raviter plus de 1000 ménages. Notre invité est Fortuna Kingombe, chef de travaux à l'université de Kindu. Il alerte sur les dangers liés à l'addiction aux stupéfiants appelés Kapapilo au Maniema, sujet qui a d'ailleurs fait l'objet de son mémoire de DEA soutenu à l'université de Lubumbashi. Nous ouvrons ce journal par ce nouveau drame au Nord Kivu. Un glissement de terrain a frappé le site minier de Gassassa à 100 km de Roubaïa Centre. Nous sommes dans le territoire de Massissi. Alors que les recherches se poursuivent, les habitants redoutent un lourd bilan sur base du nombre de personnes qui travaillent quotidiennement sur ce site. Mais l'accès à l'information est verrouillé. Les autorités locales interdisent toute communication sur ce drame. Elles interpellent même les témoins qui ont pris des images sur le site. Élisée Chikota nous donne plus de détails.
Ce mercredi matin à Roubaïa, l'atmosphère est pesante. Dans les avenues de cette entité minière, de nombreuses familles sont sans nouvelles de leurs proches et restées sur le site. Sur le terrain, les recherches s'organisent pour tenter de retrouver des survivants ou extraire les corps prisonniers de la terre. Parmi les victimes assevelies, des creuseurs, bien sûr, mais aussi des petits commerçants qui s'étaient installés sur place. Selon les témoins, le drame a frappé mardi aux alentours de 15h30. Ils expliquent qu'il ne pleuvait pas au moment de l'éboulement, mais les dangers, lui, étaient bien visibles. Aujourd'hui, les habitants demandent pourquoi les autorités n'ont pas interdit l'accès à cette zone rouge. Rappelons que c'est dans ces mêmes carrés miniers de Gassassa qu'un précédent éboulement a fait plus de 400 morts le 28 janvier dernier. Quelques jours seulement après les drames de janvier, les creuseurs sont revenus poursuivre les activités sur ces sites.
Restons au Nord Kivu. Le responsable de la protection civile de la ville de Beni lance un appel à l'assistance en faveur des populations affectées par d'importants dégâts causés par des pluies à Mutchura et ses environs. Cette localité du secteur de Rwenzori, située à environ 60 km de la ville de Beni, a été durement frappée il y a une dizaine de jours par des pluies diluviennes. Parmi les sites ayant subi des dégâts matériels importants, il y a notamment le quartier général du secteur nord du parc national de Virunga. De retour d'une mission d'évaluation sur place, Jean-Paul Capitula dresse un bilan alarmant. Il plaide pour une intervention urgente en faveur des sinistrés. Il est ici au micro de Martial Papimukeba.
Il y a d'abord plus ou moins 1780 ménages qui ont été touchés partiellement, dont 578 ménages touchés où il y a eu une maison détruite, 22 maisons qui ont été emportées par les eaux. Il y a plus de 65 maisons qui ont été aussi touchées d'une manière superficielle. 3 personnes ont été portées disparues à Lume. À Mutsora, par contre, une dame est décédée. Il y a un captage d'eau potable qui alimente toute la zone qui a été aussi détruite. Donc, il y a carasse d'eau potable pour le moment. Il y a plus de 150 latrines qui ont été emportées et il y a plus ou moins 60 hectares de cultures pérennes, des cultures vivrières qui ont été emportées. Donc, ces eaux ont fait un ravage et donc la situation est alarmante. Il est très important que ces populations soient accompagnées et assistées.
Désenclavé et réhabilité le chenal de Kingabwa ici à Kinshasa pour lutter contre les inondations. C'est l'objectif des opérations de désensablement et de réhabilitation lancées hier mardi par le vice-premier ministre des Transports. Il était accompagné du ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, du général Stassin Kizimou, commandant de la 14e région militaire, aussi du directeur général de la régie des voies fluviales, Daniel Loaboshi, ainsi que de son directeur technique, Cédric Luc Chumbu. Sur place, le vice-premier ministre a constater l'ampleur des dégâts causés par les constructions anarchiques. Le point avec vous, Alain Irung.
Selon le directeur technique de la régie des voies fluviales, ce remblayage massif du chenal de Kingaboi a entravé l'écoulement naturel des eaux du fleuve, provoquant l'assèchement progressif de plusieurs ports de Kinshasa et perturbant gravement les activités portuaires. Cédric Luc Tchumbu.
Malheureusement, ces ports se trouvent actuellement asséchés parce que le site dans lequel nous nous retrouvons présentement a empêché la continuité du chenal. L'objectif que le gouvernement s'est fixé, c'est de pouvoir remettre le chenal de Kingaboi dans son fonctionnement normal.
Pour sa part, le ministre provincial de l'Environnement a affirmé que près de 34 000 camions de sable et de gravats auraient été déversés au cours des dernières années afin de créer illégalement des parcelles destinées à la construction en complicité avec des agents peu scrupuleux des services fonciers ayant délivré des autorisations illégales. Léon Moulumba.
Les gens se sont amusés, c'est comme si l'État n'existait plus. Ils ont remblé, ils ont corrompu le fleuve Congo pendant, je crois, 4-5 ans. Et voilà, maintenant ils sont rattrapés par la force publique.
Plusieurs Kinois interrogés sur place espèrent que ces travaux permettront de mettre fin aux inondations dont la ville de Kinshasa est victime à chaque pluie.
Nous restons dans la capitale. Les usagers de l'avenue Kasavubu, reliant la commune de Bandalungwa à celle de Kintambo, se plaignent de son impraticabilité sur le tronçon partant de l'arrêt communément appelé Bloc jusqu'à l'arrêt dit Equado. Depuis un certain temps, il est difficile pour les usagers de circuler paisiblement sur cet axe. Les causes sont notamment la dégradation de la route, la lenteur des travaux de réhabilitation et la stagnation des eaux de pluie. Magloire Lando nous en parle.
À Bandalungwa, entre le Zari Block et Tubangu, l'eau a envahi une partie de la chaussée, obligeant motards et automobilistes à rouler à contresens. Par contre, entre le Zari Maison Bungu, station ma campagne Kwado à Kitambo, le travaux de réhabilitation n'avance pas. Eli, un habitant de ce quartier, témoigne.
Plusieurs tronçons de la ville de Kinshasa sont impraticables. Par exemple, l'avenue Kasavubu, de Bandal à Kitambo, la route est dans un état complètement délabré. Ça crée des embouteillages et la population en souffre. Nous sommes obligés de recourir aux mototaxis qui nous exposent à plusieurs risques. Nous demandons aux autorités du pays de s'impliquer par rapport à cette situation, d'arranger le route, non seulement d'arranger, de faire des projets pour les arrangements, mais aussi le suivi.
Madame Fifi, quant à elle, laisse exploser sa colère.
Nous souffrons, il n'y a pas moyen. Moi, je quitte Kitambo magasin pour aller laisser mon enfant qui étudie à l'école Frère Zouza. Les embouteillages, les étendos qui... Et que la pluie a causé la route, c'est même abîmé. Nous arrivons à l'école avec les enfants en grand retard. En tout cas, que les autorités puissent nous aider.
Les usagers de cette route appellent les autorités à accélérer les travaux de réhabilitation de cet axe routier afin de faciliter la circulation.
Nous restons dans la capitale pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Pakadjouma, dans la commune de Limété, près d'un mois après le dégarpissement de ses habitants. En tout cas, plusieurs familles dont les maisons ont été démolies sont revenues s'installer dans des hangars de fortune, malgré les risques liés aux intempéries. Une grande partie des sinistrés a donc abandonné le site de relocalisation. Certains affirment que dans la commune de Lancélé, ils ont été envoyés. Les conditions sont alarmantes. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de centre de santé non plus. Ils déplorent notamment la faim et des cas de choléra touchant des enfants. Nancy Atambo s'est rendue sur place.
À Pakadjouma, plusieurs familles disent ne plus vouloir repartir.
Comme vous nous voyez là, nos enfants étudient, mais présentement, avec les conditions dans lesquelles nous vivons, ils ne peuvent plus étudier. Nous ne sommes pas installés, nous n'avons pas de maison, et comment veux-tu que les enfants étudient dans ces conditions? Comment partir là où ils nous demandent d'aller sans maison construite pour nous? Plusieurs enfants meurent faute d'abri. S'il vous plaît, aidez-nous même à retourner dans nos villages respectifs.
C'est trop une solution.
Ici aussi, nous avions commencé à exercer des petits commerces. Nous n'étions pas là pour des mauvaises activités. S'ils peuvent nous donner de l'argent pour que nous nous déplacions par nos propres moyens, ce serait mieux. Parce que là où on nous envoie, les gens meurent. Une maman a accouché des 3 enfants. Ils sont tous morts. À cause des inondations, il n'y a pas de place pour s'installer. Les gens vivent à l'extérieur.
Cependant, la bourgmestre rassure que les dispositions sont en cours pour améliorer la prise en charge des sinistrés.
La ville est en train de prendre des dispositions pour les déplacer et puis les loger. Ils sont en train de construire des tentes.
En entendant de mesures concrètes, les sinistrés restent partagés entre rester à Pakadjouma et la certitude d'une nouvelle relocalisation.
puis cette bonne nouvelle, dans la province de la Lomami, la cité de Lubao a été électrifiée le week-end dernier pour la première fois depuis sa création. C'est grâce à une centrale photovoltaïque de 100 kW installée par le projet Anser. Plus de 50 ménages qui sont éclairés gratuitement saluent la mise en œuvre de ce projet. Esther Dalafina est allée s'en rendre compte.
Jacques Mukongole, propriétaire d'une bureautique de Lubao, affirme que son activité se développe depuis qu'il a été raccordé par Anser.
C'est la toute première fois de voir le courant ici chez nous. On s'est débrouillé pour avoir les panneaux, batteries. Maintenant, aujourd'hui, nous avons le courant permanent qui nous pousse à faire le travail.
Le responsable de la radio Chilo FM, Sylvain Kiomba, manifeste sa joie à cause du manque de coupures de l'énergie électrique depuis le raccordement.
De soulagement, parce que il n'y a pas de coupure. Auparavant, on avait des batteries, un groupe électrogène, ça nous coûtait. On dépensait plus ou moins 5 litres, ce qui valait à 32 000 francs congolais.
Plusieurs autres habitants se trouvent actuellement confrontés aux difficultés de raccordement. Explication de Trésor Kikangala.
Je ne suis pas encore raccordé parce que j'avais fait une commande de matériel. Il y a encore un route. Ici, chez nous, localement, le matériel coûte un peu.
Signalons que le projet prévoit de fournir l'énergie électrique à 1092 ménages en attendant l'identification de la structure qui peut s'occuper de la maintenance de la centrale photovoltaïque, la fourniture en énergie électrique reste gratuite. Esther Dalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, ce cri d'alarme des députés provinciaux du Bas-Suélé face à ce qu'ils considèrent comme un pillage minier dans les territoires d'Ango et de Poko. De retour d'une mission mixte au gouvernement provincial, assemblée provinciale dans ces deux territoires, les élus dénoncent une exploitation illicite et prédatrice de ressources minières par la société Oasis SARL à capitaux chinois. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration faite lundi à Bouta, suivant un extrait de leur déclaration choisi par Jacques Mukonkole.
L'exploitation illicite d'or et la dévastation des champs de la communauté locale, la détention des permis de recherche par la société Oasis Mining SRL transformée sur terrain en permis d'exploitation en violation de l'article 229 du code minier, le trafic d'influence au nom des autorités du pouvoir central, la méconnaissance des autorités coutumières, le début des travaux d'exploitation minière sans un dépôt de plan d'atténuation et de l'environnement, déclaration d'ouverture des travaux au mépris des articles 50 bis et 218 du code minier. L'entrave à la transparence dans l'exploitation et à la traçabilité de l'industrie minière en violation de l'article 311 TR du code minier. En effet, il s'avère que les deux tas de sable extraits par la société Oasis Mining SRL ayant produit plus de 5 seaux d'or ont été exploités frauduleusement sans traçabilité, moins encore la présence des services attitrés.
Contacté, le manager régional de la société Oasis SRL rejette en bloc ces accusations. Selon Bienfait Milali, Oasis a acquis légalement ses titres miniers et pour lui, les échantillons prélevés servent à l'expérimentation et non à des fins commerciales. Chaque gramme d'or déclaré, c'est une route construite, une école soutenue, un hôpital renforcé. C'est par ce mot que le gouverneur de la province de l'Ituri, le général John Luboya Kachama, s'est adressé lundi à Bounia aux opérateurs économiques du secteur minier. Au cours de cette réunion de travail, l'autorité provinciale a appelé les acteurs miniers à s'impliquer davantage dans la lutte contre la fraude devenue courante en Ituri au profit des pays étrangers. Et selon le gouverneur, cette situation représente un important manque à gagner pour le trésor public. Qu'en est-il, Martial Kizabiamungu?
La province de l'Ituri est la plus grande région minière importante dans l'est de la République démocratique du Congo, avec plusieurs gisements d'or dans les territoires du Djougou, Mahagui, Irumu et Mambasa. Cependant, le secteur minier reste gangréné par la fraude minière et l'exploitation illicite de l'or, parfois source de l'insécurité. Le gouverneur des provinces invite les exploitants à être des acteurs principaux de la lutte contre la fraude minière en se conformant aux tests en vigueur et aux circuits officiels pour toute exportation d'or vers l'étranger. Du côté de la Fédération des entreprises du Congo FEC Ituri, l'on rappelle que la province dispose à ce jour des 3 comptoirs d'achat d'or agréés par l'État congolais. Son président Loné Mamoukwa promet de sensibiliser les opérateurs miniers à utiliser les canaux officiels afin de permettre à l'État de maximiser leurs recettes. L'ONEMA Mokwa.
À dater des faits de semences, il faudrait que l'or arrive massivement au comptoir agréé pour essayer de nous mettre au moins sur les rangs par rapport à ce qui s'est passé avant.
Les opérateurs économiques plaident cependant pour l'assouplissement des multiples taxes qui étouffent leurs activités et alourdissent le climat des affaires. Bounia Martial Kizadiabungu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
6,5 millions de personnes sont confrontées à une famine aiguë due à une sécheresse prolongée en Somalie. De ce sont de pluies déficitaires ont fait craindre une répétition de la famine catastrophique de 2022. L'élevage pastoral, pilier de l'économie qui fait vivre plus de 60% des Somaliens, s'effondre sous le poids des chocs climatiques. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, la Somalie est au bord d'une crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver.
L'invité.
Il s'agit de Fortuna Kingombe, chef des travaux à l'université de Kindu. Il alerte sur les dangers liés à l'addiction aux stupéfiants appelés Kapapilo et sur les effets néfastes que cette drogue provoque au sein de la population de la province du Maniema. Ce sujet a d'ailleurs fait l'objet de son mémoire de DA qu'il a soutenu à l'université de Lubumbashi. Le chef des travaux Fortuna Kingombe s'entretient avec Paula Munanga.
Messieurs les chefs des travaux Fortuna Kingombe, bonjour.
Bonjour Monsieur Paulin.
Vous êtes désormais doctorant psychologue agrégé. Vous venez de défendre votre mémoire d'études approfondies en psychologie du travail et des organisations, orientation, santé mentale au travail. Et le sujet de votre travail est intitulé « Addiction aux stupéfiants, Kapapilo et conduite au travail des salariés de la Sakima ». Sakima, c'est la société aurifère du Kivu Maniema. Pouvez-vous un peu nous expliciter les mots Kapapilo?
La poudre drogue Kapapilo, c'est une substance psychoactive locale inhalée par voie nasale et composée du tabac, du chanvre, des pulpes ou pilules de bananes vertes et des acacia kirki.
C'est un nom de telle origine?
De l'origine Lega. Dans le concept local, chez Lega, on appelle ça Moussenia, en Lega. Bon, le Kapapilo, c'est purement local. C'est un concept qui n'est pas connu dans le monde scientifique, d'autant plus qu'il n'y a jamais eu de recherche dans ce sens, nous sommes les premiers.
Quels sont les effets qui sont constatés parmi les inhalateurs de Kapapilo, donc cette drogue-là?
Ah oui, d'accord. Merci, Paulin. Plusieurs effets s'observent. D'abord, sur le système respiratoire, sur le système circulatoire. Ça cause beaucoup d'AVC. Et vous avez aussi le système nerveux, le système urinaire, le système reproducteur, le système digestif et cutané même. Donc, il y a beaucoup d'effets. Moi, en tant que psychologue de formation, je me suis plus intéressé aux effets qui sont causés par le système nerveux central.
Et les stupéfiants Kapapilo n'ont aucun avantage positif chez les inhalateurs addictifs?
Tellement qu'il s'agit d'une drogue des refuges, parce que les gens n'ont pas la possibilité d'acheter la bière qui coûte tellement cher chez nous là. Ici à Lubumbashi, une bière c'est 5000 francs, mais chez nous là, la bière Simba c'est 15000 francs. Vous voyez ce qui fait pour que ces gens-là arrivent à trouver une certaine possibilité de s'enivrer, ils préfèrent prendre Kapapilo. Et en les interrogeant, vous allez voir qu'ils ont avancé les opinions suivantes. Il y en a qui vous disent que Kapapilo lutte contre les douleurs lombaires, Kapapilo lutte contre la gastrite, contre les maux des bassins. Il y en a qui vous disent que Kapapilo nous permet une certaine création du plaisir permanent, d'ivresse. Il y en a qui vous disent que Kapapilo soigne la sinusite. Imaginez-vous, il y a les maux de ventre, il y a le rhume. Et Kapapilo renforce les testicules pour une bonne érection du pénis. Ils vous disent ça, mais ça peut affaiblir en cas de manque. C'est pourquoi ils ont une certaine dépendance. Mais toutes ces réponses-là, M. Paulin, sont purement physiques et peuvent être exploitées par les autres collègues. Médecins, pharmaciens, biologistes, mais nous, en tant que psychologues, nous sommes intéressés plus aux troubles psychiques.
Pourquoi vous avez ciblé les salariés de la Sakima pour mener vos recherches?
Ah oui, tout à fait. Bon, on a ciblé les salariés parce qu'on devrait absolument vérifier quelles sont les conséquences de l'inhalation du stupéfiant Kapapilo sur leur performance au travail. Il n'y a pas que les salariés qui sont concernés. Dans la communauté, il y a beaucoup de jeunes, adolescents, adultes, même les femmes. Attention, Monsieur Paulet, il y a même les enfants de l'école primaire chez nous au Maniema qui commencent à inhaler cette substance-là. À avec toutes les conséquences possibles.
Quelles sont ces conséquences?
Il y en a autant. D'abord, on observe un certain nombre de troubles psychiques qui sont nombreux. Je ne sais pas vous donner tous ces détails-là, mais sinon, il y a les troubles qui sont purement cognitifs et neuropsychologiques. Il y a des troubles qui sont émotionnels et caractériels. Il y a des troubles comportementaux et psychosociaux. Il y a des troubles globaux sur la performance.
Ça conduit aussi à la mort?
Ah, mais comment? Il y a beaucoup de cas de mort chez nous là, mais les concernés ne s'en rendent pas compte. Ça crée beaucoup de méfaits et ce qui fait que nous, scientifiques qui connaissons les effets de ces troubles-là, nous savons directement que c'est la cause majeure. Le motif, c'est l'inhalation de cette substance-là psychoactive.
Comme la consommation de cette substance qui est dénommée capapilo est devenue un sérieux problème social, quels sont les efforts qui sont fournis par les autorités sur place pour lutter contre ces phénomènes-là?
Ça, c'est un constat qui est d'ailleurs amer. Il n'y a aucun mécanisme qui est prévu, même par les autorités locales et même au niveau national. C'est pourquoi nous sommes dit on ne peut pas croiser les bras en tant que scientifique, en tant que chercheur. Nous sommes mis au-dessus parce que ça fait déjà 5 ans que je suis dans cette recherche-là.
Monsieur le doctorant Fortuna Kingombe, je vous remercie.
Merci, monsieur Paulin.
Fortuna Kingombe, chef des travaux à l'université de Kindu. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Alain Rung et Élisée Chikota Chivuita avec Dieudonné Nyangasa à la mise en ligne. Son nom, c'est Babin Pongo Massimango à la présentation. À toutes et à tous, merci de votre attention. Bonne suite au programme sur la fréquence de la paix.